Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges. Et notre invité aujourd'hui est maître Bertrand Couder, que je salue. Comment allez-vous ?
Merci monsieur Bouyaguet, bonjour à vous aussi.
Alors, nous allons parler beaucoup de santé publique. Vous me direz, beaucoup de gens font ça en ce moment. Mais il y a un petit événement dans l'organisation judiciaire qui a attiré notre attention. Et puis, le code de santé publique, c'est quand même un petit pavé. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver dans le code de la santé publique. Et ça va nous occuper un moment. Alors, on a dit comme ça, dans la presse, vite fait, que le tribunal de sécurité sociale de Bourges avait été transféré à Orléans. Et puis, en fait, c'est pas si simple que ça.
Non. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, qui, comme son nom l'indique, traitait des litiges qu'il y avait entre les caisses de sécurité sociale et les assurés sociaux, les citoyens, principalement, est toujours à Bourges. Mais il a englobé un autre tribunal qui préexistait, qui s'appelait le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui s'occupait un petit peu des mêmes sujets, mais principalement pour son versant médical, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un a droit à un accident du travail, est-ce qu'il va toucher quelque chose de la sécurité sociale, combien, selon quel degré ça sera fonction de son taux d'incapacité. Et c'est le tribunal tribunal du contentieux de l'incapacité qui déterminait si la personne avait 10, 15, 20, 30, 40% ou plus d'incapacité, et qui donc ensuite déterminait ainsi le montant de la pension qu'il verserait par la suite.
Je croyais que c'était plutôt les conseils des prud'hommes qui jugeaient de la qualité d'accident du travail. Non, c'est la sécurité
sociale. Sur le principe de l'existence d'un accident du travail, c'est la sécurité sociale qui d'abord prend une décision, positive ou négative, et dans le cas de conflit avec l'assuré social, c'est-à-dire principalement dans les cas où la sécurité sociale dit « pour nous ce n'est pas un accident du travail », eh bien le citoyen, le salarié a le droit de saisir tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger par un juge qu'il s'agissait bien d'un accident du travail. Alors évidemment, ça touche également la sphère des prud'hommes, parce que quelqu'un qui est licencié parce qu'il y a eu un accident du travail, qu'il l'a rendu inapte à son travail, ça va avoir des conséquences sur ce licenciement et sur les droits qui en découleront. Oui. Donc les deux sont assez mêlés. Mais sur le principe de savoir si c'est un accident du travail ou pas, sur le point de savoir si cet accident du travail est un accident que j'appelle simple, ou bien faute à pas de chance, ou si c'est un accident qui a été généré parce que l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions de sécurité qu'il fallait, ce qu'on appelle un procès en faute inexcusable, alors là c'est également l'ex-tribunal des affaires de sécurité sociale qui juge de ces contentieux.
Et qui donc s'oppose au patron en fait là.
Alors, dans le cas des procès en faute inexcusable, le salarié fait un procès à la fois contre la sécurité sociale, qui elle prend parti pour l'un ou l'autre, comme elle l'entend selon chaque dossier, qui très souvent d'ailleurs dit au tribunal qu'elle laisse le soin au tribunal décider sans aller plus loin, et également contre l'employeur.
D'accord.
Éventuellement même aussi en présence de l'assureur de l'employeur. Donc on est devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'appelle maintenant pôle social du tribunal judiciaire, à Bourges, devant lequel on va avoir le salarié avec son avocat, l'employeur avec son avocat, la sécurité sociale avec son représentant, l'assureur de l'employeur avec son avocat.
Pôle social, mais le tribunal des prud'hommes, de temps en temps, était aussi le pôle social du tribunal général cas d'échevinage, non ?
Alors le conseil, très souvent ces tribunaux, que ce soit le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est devenu maintenant pôle social, ou que ce soit les prud'hommes, sont des tribunaux qui fonctionnent avec un chevinage, c'est-à-dire présidé par un magistrat professionnel et qui est assisté d'assesseurs qui souvent sont élus comme prud'hommes.
Donc en fait, il n'a pas déménagé, il a juste changé de nom.
Il a changé de nom, il a récupéré le tribunal, c'est maintenant le tribunal judiciaire, c'est maintenant une chambre qui dépend du tribunal judiciaire, comme le tribunal correctionnel ou le juge des affaires familiales, si vous voulez, et qui a récupéré la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui s'occupait uniquement des questions d'importance du taux d'incapacité. Donc tout ça est réuni dans un seul tribunal qui dépend du tribunal judiciaire de Bourges.
Mais alors le TCI, il n'était pas à Bourges?
Alors le TCI était provisoirement à Bourges, c'était un démembrement du tribunal d'Orléans qui se déplaçait à Bourges. On appelle ça des audiences foraines.
Ah oui, c'est très beau ça. Oui.
Voilà, c'est beau ça.
J'aime bien,
c'est,
oui.
C'est un parfum un peu suranné, un peu désuet.
Oui. Ça fait les foires d'antan.
Voilà, quand le dentiste se déplaçait.
Oui. Problème aussi. Et alors donc, en fait, on y a presque gagné, alors.
Alors, de ce point de vue-là, on y a gagné en un peu de simplification, là où il en faudrait beaucoup. Parce que la question, l'indemnisation des accidents du travail est assurée par des procédures qui sont quand même complexes, voire très complexes, et qui sont pas faciles à utiliser pour nos concitoyens. Et qui, de surcroît maintenant, deviennent longues. Puisque si devant le tribunal de Bourges, ça s'est simplifié, par contre, si vous faites appel ou si votre adversaire fait appel, eh bien, votre procès durera maintenant 2 ans de plus. Parce que là où la cour d'appel de Bourges statuait en à peu près 1 an, maintenant la cour d'appel d'Orléans,
Ah oui, c'est ça qui est parti.
Voilà, qui est parti à Orléans, c'est en appel de tous ces jugements. La durée pour juger est passée à peu près de 1 an à 2 ans. Donc cette réforme qui nous a été présentée, comme chaque fois, parce qu'on sait, on fait des réformes avec des motifs avancés dont on sait qu'ils ne sont pas les motifs réels.
Oui, c'est les arguments et
voilà.
Les causes.
L'argument était, oui, mais vous comprenez, il n'y a pas suffisamment de volume et il nous faut des juges spécialisés dans cette matière si complexe. On avait des juges qui rendaient des décisions à la cour d'appel de Bourges qui étaient aussi bonnes que celles qui sont rendues à la cour d'appel d'Orléans. Enfin, j'ai pas vu de spectaculaire modification des décisions. Et donc c'était l'argument avancé. Et en réalité, le gouvernement veut faire des économies en matière de justice. La cour d'appel de Bourges est une cour d'appel qui est régulièrement attaquée. Elle avait été attaquée de pleine face au moment de la réforme d'Atti, où on nous annonçait sa suppression pour simple. Depuis, les gouvernants successifs ont trouvé un autre moyen plus indolore ou plus invisible, c'est-à-dire c'est de dépecer petit à petit la cour d'appel de Bourges de telle ou telle compétence. Et puis, au bout du bout, on gardera les compétences les plus visibles, c'est-à-dire le droit de la famille et plus le droit pénal, jusqu'au jour où on nous dira ben maintenant, il n'y a plus que le droit de la famille et le droit pénal, autant tout passer à Orléans. Voilà.
Mais alors, la cour d'appel de Bourges, c'était déjà Nevers-Châteauroux?
Alors, c'est Bourges-Nevers-Châteauroux.
Alors, tout ça récupéré à Orléans?
Tout ce qui concerne ce contentieux de la sécurité sociale a été renvoyé à Orléans, qui n'avait pas besoin de ça, parce qu'Orléans, comme beaucoup de cours d'appel, avait déjà un stock de dossiers importants et accusé un retard d'un an, un peu comme partout. Et si vous lui rajoutez les dossiers de Bourges, de Nevers et de Châteauroux, bah, c'est ce qui explique qu'on arrive à ce délai de 2 ans, puisque on annonce toujours beaucoup des moyens supplémentaires, mais entre les annonces et la réalité, il y a parfois un écart qui fait que pour l'instant, je ne vois pas de réduction du délai dans mes dossiers.
D'accord.
Alors, c'est d'autant plus ennuyeux, si vous voulez, que c'est pas des contentieux où vous avez la société machin qui a un capital social de centaines de milliers d'euros face à quelqu'un qui a également les épaules très larges de l'autre côté. Vous avez très souvent des gens qui ont des contentieux de peu de choses quand on voit s'écrire sur le papier, mais qui est extrêmement important pour eux.
Ben oui, c'est leur survie.
Quelqu'un qui doit être soigné à tel endroit, qui voudrait être soigné à tel endroit, à Clermont-Ferrand, mais auquel on dit « mais non, c'est pas possible, vous ne serez pas remboursé parce que il y a Tours qui était plus près », Ça se plaide devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Donc vous allez attendre, au lieu d'attendre un an, vous attendrez 2 ans ou 3 ans. C'est vraiment pas satisfaisant. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent des contentieux de personnes qui sont dans le besoin et que l'on soumet ainsi à des contraintes et à un coût procédural et à un temps procédural qui leur est très défavorable.
Oui. Bien alors pour ce qui est de l'incapacité, c'est le gagne-pain qui est en cause là.
Oui, sur les quelqu'un qui a un accident du travail, s'il considère que son taux d'incapacité, parce que son médecin le lui dit, parce que il s'est renseigné à droite à gauche dans des associations, chez des avocats, que il semblerait que ce soit plus que ça. Que ce soit 20 ou 30%, si vous le faites reconnaître par un tribunal, et s'il faut aller ensuite devant la cour d'appel, soit à sa demande, soit à la demande de l'adversaire, eh bien, il va prendre des années avant d'avoir un résultat définitif. C'est pas possible.
Oui, pendant ce temps-là, c'est le RSA, quoi.
Voilà.
Oui, c'est des petites choses dont on parle moins que les grandes affaires, mais qui ont un impact au quotidien.
Ouais. Et ce sont des audiences où il y a beaucoup de monde.
Oui, oui j'imagine.
C'est avec le Covid, évidemment, c'était pas le cas, mais finalement, il n'y a pas tant d'audiences que ça dans un tribunal comme celui de Bourges, où le public est nombreux. Vous avez le droit pénal.
Oui.
Et puis vous avez le tribunal des affaires de sécurité sociale. Voilà. Et ça, c'est très, très, très néfaste de réduire l'accès à la justice de cette manière-là.
Enfin,
quelqu'un qui considère qu'il est suffisamment handicapé pour avoir droit à une allocation d'adulte handicapé, si la MDPH et la CAF, qui n'est que le payeur, mais si la MDPH dit non, votre taux d'incapacité n'est pas suffisamment important pour que vous puissiez espérer avoir l'allocation d'adulte handicapé, si vous n'êtes pas d'accord que vous contestez, vous allez vous retrouver dans le même problème, devant le même problème.
Mais le fait de transférer ce tribunal un peu spécialisé des affaires de la sécurité sociale dans un pôle social du tribunal correctionnel...
Judiciaire,
ah oui, c'est vrai. C'est...
Ça, c'est plutôt pas mal, ça.
Oui, ça n'empêche pas le public de venir.
Non, pas du tout. Non, c'est plutôt pas mal. Là, il y a un peu de rationalisation, je trouve, qui est plutôt bien vu, parce qu'on avait ces deux tribunaux qui étaient un petit peu des électrons libres, quoi, qui dépendaient de ministères différents. Le tribunal du contentieux de l'incapacité ne dépendait pas du ministère de la Justice, il dépendait du ministère des Affaires sociales. Le tribunal des Affaires de sécurité sociale dépendait du ministère de la Justice. Donc, c'était un...
En fait, le problème récurrent qu'on trouve dans beaucoup d'autres types d'affaires, c'est le délai entre le jugement et l'appel.
Oui.
C'est un délai qui est sans doute nécessaire.
Non, il n'y a pas de... Qu'il y ait un délai, oui, mais souvent en appel, le dossier a déjà été bien étudié en première instance. Que ce soit par chacune des parties, leurs avocats ou le tribunal. Donc, quand j'ai des dossiers en appel, c'est des dossiers que je connais déjà bien, si vous voulez. Je n'ai pas à refaire tout le travail de départ. Des fois, il faut remanier les choses pour bonifier, mieux présenter l'affaire, renforcer un dossier. Mais l'essentiel du dossier a déjà été examiné en première instance. Donc, en fait, en appel, on pourrait très bien imaginer que les arrêts, les décisions d'appel soient rendus plus rapidement qu'en première instance. C'est là aussi ce qu'on nous a vendu avec des... Bon, ça c'est de la cuisine qui concerne les avocats et les juges, mais on se rengorge de réformes qui sont faites, qui sont présentées avec tous les avantages possibles. Il y a quelques années, une dizaine d'années, il y a une réforme qui s'appelait la réforme Magendie qui a été faite pour que les arrêts des cours d'appel soient rendus rapidement, en soumettant les avocats et donc les gens eux-mêmes à des délais extrêmement stricts, sans possibilité de dérogation ni rien. Donc, et à défaut de quoi, votre procédure tombe à l'eau de manière définitive. Donc c'était une garantie annoncée de ce que, en 6 mois, oui, maintenant les gens ont une décision de la cour d'appel. Alors nous avons ces délais, nous y sommes contraints, Il y a des... c'est de la procédurite, si vous voulez. Il y a un formalisme forcené qui n'a pour but que de faire en sorte que les procédures soient plantées. Et une fois que les avocats ont quand même fait leur travail, au bout de 6 mois, eh bien, la cour d'appel, comme elle n'a pas plus de moyens qu'avant, le dossier est prêt à être plaidé, mais on va attendre 6 mois à Bourges, 1 an ou 2 ans dans d'autres cours d'appel, avant que le dossier arrive sur le dossier d'un juge pour que le juge tranche. Donc on a fait une réforme qui est lourde, très lourde, qui entraîne beaucoup de difficultés pour nous et pour nos clients, sans aucun gain de procédure, au contraire.
D'accord. Et bon, alors c'est un problème général donc qui s'applique aussi aux affaires de sécurité sociale et d'incapacité. On ne dit pas invalidité, on dit incapacité.
Alors ça dépend. Ah. Ça dépend. Si on parle des conséquences physiques d'une personne à la suite d'un accident du travail, on parle d'incapacité. Et on aura un taux d'incapacité, avec un taux de rente d'incapacité. Ça, c'est pour quelqu'un qui était dans le travail, puisque par définition, il a eu un accident du travail. Mais si vous n'avez pas travaillé depuis un certain temps, vous n'avez plus de protection sociale du salarié, si vous avez un handicap important qui survient, vous êtes quand même assuré social, mais vous n'étiez pas dans le travail, là vous aurez un handicap, vous pourrez demander une pension d'invalidité, d'accord, qui est moins intéressante, je ne rentre pas dans le détail, mais qui est moins intéressante que l'incapacité d'un accident du travail. Et si vous n'êtes même pas un assuré social parce que vous n'avez pas suffisamment d'antériorité de travail, vous n'êtes plus pris en charge par la CPAM, il vous restera éventuellement l'allocation adulte handicapé. À chaque fois, on descend d'un cran, si vous voulez, dans les avantages que l'on peut obtenir.
D'accord. Donc la capacité, c'est l'incapacité à travailler, simplement.
C'est l'incapacité, c'est le terme qu'on emploie pour caractériser le handicap d'une personne qui a été blessée dans le cadre d'un accident du travail.
Bon. Alors, on entend des fois des approximations comme quoi la santé est un droit. Et puis en fait, il y a un droit de la santé, mais alors de la santé publique quand même, et ce n'est pas rien, c'est un véritable pavé celui-là aussi.
Oui, il est très important, il est très épais. Je défie quiconque de le prendre à la première page pour le lire jusqu'à la fin.
C'est peut-être un bon soporifique.
Il y a d'ailleurs des choses qui, moi comme avocat, dans mon exercice à moi, ne m'intéressent pas et que je n'irai jamais lire, si vous voulez. L'organisation des hôpitaux, je veux bien qu'on me l'explique pour que je la comprenne, mais je ne vais pas avoir, ou alors exceptionnellement, à aller voir comment l'administration même de l'hôpital fonctionne.
Bon. C'était tout l'intérêt de la création des codes pénaux, en fait. C'était que les informations y étaient rangées d'une façon où elles étaient accessibles indépendamment
les
unes des autres.
Ce qu'on appelle la codification.
Voilà, c'est ça, oui.
La codification, c'est réunir en un seul ouvrage l'essentiel de tout un domaine de l'existence. Bon, l'exemple le plus, enfin, que tous les Français connaissent, c'est le code civil de Napoléon.
C'était la première fois qu'on faisait ça.
Voilà.
Bon, il n'en reste plus rien, mais il reste cet esprit d'organiser les informations.
Oui. Ça avait aussi le code Napoléon, ça avait d'une part ça, et ça avait aussi comme caractéristique que ça concernait toutes les régions du pays.
Ah oui, aussi,
alors
oui,
qu'auparavant, universel, oui. Il y avait la grande coutume du Berry, ceci, cela.
Oui, c'est vrai. Bon, alors, ce code de la santé publique, il date de quand, lui ?
Là, vous me posez une colle. Vous me posez une colle, je ne sais pas. Je ne sais pas, d'autant qu'il se renforce de partie entière, parfois d'un coup. Vous prenez par exemple, en ce qui concerne la déontologie des médecins, il existe toujours un code de déontologie médicale, avec un certain nombre d'articles, qui tout d'un coup, pouf, ont été intégrés dans le code de la santé publique. Et vous avez tout un chapitre maintenant dans le code de la santé publique qui s'appelle déontologie médicale. Donc ça s'est fait par ajout.
En fait, oui, c'était un peu une question que j'allais vous poser. Il y a donc les... le barreau, l'équivalent du barreau pour les médecins, en fait, c'est l'ordre des médecins. Il y a l'ordre de l'éthique, le comité d'éthique. Il y a déjà de l'organisation, il y a déjà une certaine... Il y a déjà du droit, et même du droit qui presque déborderait sur la morale, d'une certaine façon. Et on se demande comment le droit a pu s'immiscer là-dedans, alors que ça marchait déjà...
Le droit, je dirais que c'est ce qui réunit les réflexions de, on peut aller, non, les grands mots, de tout un peuple sur un domaine particulier. Lorsque il y a les codes de déontologie, les ordres professionnels, tout ça, ce sont des réunions d'individus qui créent une société, qui se créent ses propres règles. Il existe des ordres d'avocats, des ordres de médecins, parce que ce sont des professions particulières qui souvent, alors les architectes, les infirmiers plus récemment, les experts géomètres, parce que ce sont en général des professions libérales. Et que ces professions sont libérales et qu'elles vont donc se définir elles-mêmes, sous le contrôle quand même du gouvernement, mais elles vont définir elles-mêmes les règles déontologiques qu'elles s'appliquent. Les avocats, les médecins définissent d'abord dans leur code de déontologie les grands principes qui doivent les guider. L'indépendance...
Oui, ben ça c'est vieux, ça date...
Pas tant que ça.
Le serment d'Hippocrate, non?
Le serment d'Hippocrate, oui. Mais l'ordre des médecins n'est pas si vieux que ça. Il date du XXe siècle.
Alors oui, quand on regarde... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'histoire du droit, mais quand on regarde la littérature romantique, le médecin est encore un personnage un petit peu omnipotent, très mystérieux, que personne n'attaquera jamais. Et c'est un dieu, presque.
Oui, c'est un dieu avec peu de pouvoir quand même, parce que oui. L'état de la médecine pendant des siècles... Et quand même un domaine de compétences qui est très réduit et dont on n'a plus tellement conscience aujourd'hui.
Je crois que le début des contentieux contre la médecine, et c'est bien parce que c'est d'actualité, ça date de la vaccination en Angleterre. Le gouvernement anglais avait rendu la vaccination obligatoire contre la variole, et le mot vaccin vient de là, c'était la vaccine, c'était la maladie de la vache. Hein. Et il y avait des gens qui contestaient ça, et on a attaqué des médecins.
Vous en savez plus que moi là-dessus.
Voilà, c'est comme maintenant quand on sabote le travail des centres, qu'on sabote les centres de vaccination, des choses comme ça.
Ça, c'est, on retombe dans le droit commun, parce que saboter du travail comme ça, dire, c'est de la, pour moi, c'est du droit commun pur et simple, c'est
oui,
de la dégradation.
De toute façon, oui. Mais la médecine est rentrée dans le droit, j'ai l'impression, à cause de la vaccination.
Enfin, alors, bon, ça, c'est... En tout cas, elle est rentrée de plus en plus dans le droit avec son évolution extraordinaire, avec ses progrès extraordinaires en l'espace d'un siècle. L'arrêt Mercier, qui est l'arrêt fondateur en droit français sur la responsabilité médicale, je crois que c'est 1930 ou quelque chose comme ça. Donc c'est en fait, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un peu l'impression d'un médecin qui est deus ex machina pendant des siècles. Hein. La représentation des médecins par Molière, c'est pas juste un gag, c'est quelque chose qui...
Il s'en moquait, mais voilà. Il avait des raisons de le faire. Oui.
Voilà, c'est ça. Les progrès du XXe siècle, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les sulfamides, que ce soit l'anesthésie qui a permis cette évolution de la chirurgie sans laquelle ça n'aurait jamais été possible, ont amené à des résultats extraordinaires auxquels la population, je veux dire un peu méchamment ou un peu bêtement, s'est habituée. C'est pas qu'elle s'est habituée, c'est qu'à partir du moment où le médecin est capable de faire quelque chose et où l'on sait que c'est un résultat qui est atteignable, eh bien on demande à ce que ce résultat soit atteint. On n'est plus dans une sorte d'aléa ou de quelque chose de magique qui là est inattaquable. Bon. Donc si, prenons un exemple simple, si demain quelqu'un que l'on connaît, un proche, décède à la suite d'une opération de l'appendicite. Tout le monde a trouvé ça anormal.
Oui.
Il y a un siècle, c'était normal.
C'était le contraire qui était miraculeux.
Voilà. Et donc, on comprend qu'à partir de ce moment-là, pourquoi ces réactions ont changé, parce que le résultat est atteignable, est normalement atteignable pour peu que le médecin fasse bien son métier, le métier qu'on lui a appris. Et c'est ce qui a entraîné la mise en place de cette le développement de la responsabilité médicale. Le médecin commet une faute, il ne fait pas bien son travail, eh bien, il devra réparer les dégâts qu'il a commis. Bon. Et puis, le pas extraordinaire, là encore, que l'on a, cette fois-ci, juridique, c'est au début des années 2000, quand, par la loi Kouchner, on décide d'indemniser non seulement les cas dans lesquels le médecin a mal travaillé, mais aussi les cas où, bien qu'ayant bien fait son travail, on arrive à un résultat qui était absolument pas, qui n'était pas, auquel on ne pensait pas, qui n'était pas prévisible, dont le résultat catastrophique est anormal. Je veux dire par là que on indemnise maintenant, depuis 2002, les cas dans lesquels il y a un accident médical, quelque chose arrive, le médecin a bien fait son travail, mais quelque chose arrive, qui n'arrive que très rarement. C'est anormal, et on considère que la personne qui se trouve dans cette situation d'anormalité, c'est-à-dire en quelque sorte une certaine injustice, doit être prise en charge et doit être indemnisée. Et la plupart du temps, c'est la collectivité qui va indemniser.
Oui, bien sûr. Quand même, sur le plan de la philosophie du droit, c'est quelque chose de très particulier, parce que pour indemniser les victimes d'une agression, d'un viol, des choses comme ça, on établit d'abord la culpabilité de quelqu'un.
Oui.
Et là, la culpabilité du médecin n'est pas mise en compte,
non.
Il a fait ce qu'il fallait, mais les victimes sont indemnisées.
Voilà. C'est une responsabilité sans faute.
Ouais, c'est quand même, je dirais, un gros progrès par rapport reste du droit. Ouais.
C'est énorme. Si vous prenez une dame qui doit subir, je pense à un dossier, qui doit subir une opération bénigne, dans laquelle le médecin, les experts se penchent sur le dossier et disent que le médecin a fait son travail tout à fait correctement. Mais il se trouve que cette dame, 24 heures après son opération, se trouve dans une situation telle qu'elle va être hémiplégique, et que l'on repère que c'est un cas tout à fait exceptionnel, dont on a vu quelques exemples en littérature médicale, peut-être 1 sur 100 000, eh bien on va indemniser ce cas-là. Parce que la personne va se trouver dans une situation injuste qui n'était pas prévisible pour elle, ou très peu prévisible. C'est-à-dire que c'est cette anormalité qui fait l'injustice. Si, par contre, vous arrivez que vous êtes déjà très mal en point, qu'on vous dit, je ne vous souhaite pas, M. Bouilleguier, qu'on vous dise...
On verra bien.
Qu'on vous dise, vous savez, maintenant on peut tenter une opération, mais c'est une chance sur deux. Bon, bah, si ça se passe mal...
c'est mieux que la roulette russe.
Vous avez été prévenu, vous avez pris vos responsabilités, et vous savez que le médecin, il aura fait ce qu'il pouvait, avec les moyens qu'il avait. Et si le médecin fait correctement son travail, que malgré tout, ça se passe mal... Eh bien là, oui, c'est la vie, si vous voulez. Il n'y a aucune indemnisation de ce type de situation.
Mais alors, je reprends mon idée de tout à l'heure. Souvent, le droit s'oppose à des personnes, des institutions. Et là, c'est plutôt du domaine de la réglementation, la réglementation sociale, c'est comme pour... la sécurité sociale, par exemple, quelqu'un qui meurt d'un cancer du poumon, on le soigne aussi bien qu'il ait fumé ou pas.
Oui, si on commence à faire le tri, voilà, c'est compliqué.
Ça, oui. Non, mais c'est ça la solidarité sociale, en fait.
Oui, oui.
Et la justice n'est pas tellement habituée à ça. Elle s'attaque aux personnes, d'habitude.
Précisez-moi.
On cherche l'auteur de...
Le responsable.
Le responsable du tort qui a été causé.
Oui. Oui. Mais,
et là, il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas.
Ouais.
Mais c'est tout ce qui fait l'humanité. Enfin, en matière de, en matière de soins, sauf ces pays où il y en a beaucoup, remarqué, vous me direz, où on est soigné que si on a de quoi payer.
Oui, ça, c'est vrai.
Sinon, je vois mal un médecin en France dire, écoutez, vous l'avez bien cherché, restez chez vous, je ne viendrai pas vous soigner.
Alors, cela dit, j'ai...
Même si c'est vrai, bien sûr.
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a eu une époque où il y avait une sorte de course à l'assurance de la part des médecins qui avaient peur d'être attaqués en justice et de devoir payer des compensations faramineuses et qui donc se protégeaient avec des...
Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est en relation avec ce que je viens d'exposer tout à l'heure, c'est-à-dire que... Actuellement et toujours, lorsqu'on est dans le cadre d'une responsabilité du fait de la faute d'un médecin, le médecin s'assure, comme n'importe qui.
Eh oui.
Comme vous êtes assurant en responsabilité civile si jamais vous renversez votre voisin.
Voilà. Bon.
Comme un artisan est assuré pour sa responsabilité professionnelle s'il fait mal son travail. Mais, quand on a commencé à parler de cette responsabilité sans faute, pour ces accidents médicaux.
Oui, c'est ça qui est formidable.
Au début, on a maintenu le système tel quel, c'est-à-dire qu'au tout début, au tout début de la loi, on a fait comme si c'était l'assureur de ce médecin qui devait indemniser. Bien. Tout ça, c'est lié avec ce que c'est même plus précis que ça, c'est lié avec, vous avez peut-être entendu parler de l'arrêt Perruche, qui était cette. Un arrêt qui est intervenu juste avant la création de cette indemnisation des accidents médicaux, et où les médecins se sont dit, et les assureurs surtout, se sont dit, mais s'il faut qu'on indemnise les accidents médicaux, ça va coûter une fortune.
Oui.
Et quel
c'est un petit peu comme une catastrophe naturelle.
Quel est le chirurgien qui va prendre en charge, quel est le chirurgien qui va accepter de payer une prime d'assurance qui va lui coûter des sommes faramineuses? Ça ne sera pas possible. Et donc les assureurs, dire le lobby, mais peu importe, je pense qu'au fond, dans le fond, il y avait quelque chose qui était assez logique là-dedans. C'est nos assureurs, vous pouvez très bien dire, après tout, c'est pas, nous, on est assureurs des fautes que commettent les médecins. On ne peut pas être assureurs de l'absence de fautes commises par les médecins. Et donc, si une société veut se doter d'une indemnisation de ces situations tragiques, c'est une indemnisation collective qui doit intervenir. Et c'est pour ça que ça a été pris en charge par des fonds publics ensuite.
D'accord.
Et donc, l'État... C'est vrai en responsabilité médicale, c'est vrai dans d'autres domaines. Dans ces cas-là, l'État a créé des fonds qui, pour les accidents médicaux, s'appellent l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui, pour d'autres cas, s'appelle le Fonds de garantie des actes de terrorisme et des infractions, ou encore, plus anciennement, le Fonds de garantie automobile, quand il y a des gens qui ne sont pas assurés et qui provoquent des accidents. Donc ces fonds, ou le fonds pour les contaminations par le... Par les transfusions sanguines, tous ces systèmes d'indemnisation par des fonds sont des systèmes de prise en charge de situations tragiques par la solidarité nationale.
D'accord. Eh bien, c'est quand même bien. Voilà. Et le droit des patients, ça s'occupe de beaucoup de choses aussi, par exemple de l'environnement maintenant. Environnement et santé, j'ai vu qu'il y avait un livre
dans le code de la santé publique,
comme ça. Ouais.
Exactement.
L'alimentation.
Oui, bah oui, tout ce qui concerne les règles d'hygiène alimentaire.
Eh oui, mais c'est vrai que je crois qu'Hippocrate en parlait déjà. et puis, donc, l'administration des soins. Et alors, évidemment, les dons d'organes, ça, on le savait depuis longtemps,
oui.
Ça fait...
Pour tout ce qui concerne la fin de vie aussi, vous parliez des comités d'éthique, tout ce qui concerne la fin de vie et figure dans le code de la santé publique. La loi Leonetti, la loi Leonetti-Face qui se sont succédées, c'est dans le code de la santé publique.
D'accord.
La manière dont le personnel médical doit se comporter, à qui il doit faire référence, qui doit-il écouter, c'est dans le code de la santé publique. Le droit d'information du patient, qui est fondamental.
Ça, c'était la loi Kouchner.
C'est la loi Kouchner aussi. Oui. C'est dans le code de la santé publique.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vous qui décidez, vous, patient, et ce n'était pas le cas avant. Quand ça a été écrit, ce n'était pas gagné d'avance. C'est le patient qui est informé, cher monsieur, vous avez tel problème, vous pouvez envisager ceci, ceci ou cela, je vous décris les avantages et les inconvénients, je vous informe complètement, et en fonction de cela, je considère que vous êtes suffisamment grand, suffisamment responsable pour choisir.
Voilà. Et lorsque choisissez. La personne, lorsque le malade n'est pas en état de répondre, on s'adresse à sa famille.
Ça peut être la famille. Ouais. Il peut aussi y avoir une collision de différentes choses, notamment pour la fin de vie, ce qu'on appelle les directives anticipées, oui. Il peut y avoir des choses comme ça.
D'accord. Et alors, une chose qui est dans l'actualité aussi, ça parle des essais cliniques, des médicaments et notamment des vaccins. Mais alors, je me suis dit, tiens, et lorsqu'on consomme des médicaments, c'est le cas le plus courant maintenant, qui sont étrangers, c'est le cas de nos vaillants vaccins contre la
oui,
Covid.
On prend ces risques. Hein.
Eh ben non, mais je veux dire, la loi française ne peut rien faire là.
Non, elle ne peut rien faire. Sinon, elle ne peut rien faire. On ne peut pas empêcher un individu qui est en France de commander de la poudre de perlimpinpin à l'autre bout du monde et de se l'ingérer par le moyen de son choix. Et puis après, il en court, il prend lui-même ses responsabilités. Là, on ne peut rien imputer aux autorités françaises à ce titre-là.
Oui. J'ai vu que certains syndicats de personnels médicaux des services publics qui ont été suspendus, autant suspend ton vol et ton salaire aussi, à cause de leur non-vaccination, ils ont attaqué, alors devant le tribunal administratif, je pense, mais ça va pas être...
C'est pas aller bien loin, d'après ce que je suis.
Ça va pas aller loin, non. Ils ont attaqué le fait que les vaccins ne respectaient pas la loi concernant les essais cliniques. Mais bon, puisque ça se passe pas en France...
Dépasse mon domaine de compétences.
Non, mais leur argument, c'est de dire, puisque les essais cliniques ne correspondent pas au code de la santé publique,
oui, mais auparavant,
on ne peut pas obliger les gens à se vacciner.
Oui, c'est ça, sauf qu'il y a une autorité française ou européenne qui, avant de mettre ça sur le marché, a vérifié cet aspect-là. Donc,
ouais.
On peut éventuellement mettre en cause ce qui a été fait dans tel ou tel pays, mais à partir du moment où nos autorités ont vérifié cela, je vois pas très bien comment on peut espérer que ça...
Oui, que ça aboutisse, bien sûr. Enfin, bon.
Sauf à attaquer la décision prise par l'autorité sanitaire française européenne de pouvoir utiliser ces systèmes-là. Mais...
Oui, bon. Alors, un autre sujet qui est lié à la santé publique, c'est le droit de réserve du médecin, le secret professionnel du médecin, qui, me semble-t-il, commence à être un petit peu attaqué aussi. Dans certains cas, dans des affaires de famille, des affaires d'inceste, de viol, de maltraitance, des choses comme ça.
C'est un sujet extrêmement compliqué parce qu'il touche une actualité brûlante d'une part et que l'on voit ça souvent a posteriori d'autre part. Je m'explique. Que ce que l'on considère un médecin doit-il révéler un crime dont il a connaissance dans le cadre de son exercice professionnel? Que dit la loi sur le secret professionnel du médecin dans une telle hypothèse? De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas lu mon code pénal avant de venir chez vous, mais de mémoire, le médecin, dans ces hypothèses-là, n'est pas répréhensible s'il révèle les informations qui lui ont été données. Pour un certain type d'infraction bien particulier, je ne parle pas d'une manière générale de tous les crimes, tous les délits, bien sûr, concernant la plupart du temps les mineurs.
Donc il est exempté de son secret professionnel.
Je ne peux pas vous dire, mais j'aurais dû réviser un petit peu avant de venir. Et il est, disons qu'il ne sera pas poursuivi.
D'accord.
Voilà. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, ça va au-delà. Et ça se pose, la question se pose aujourd'hui, enfin vous l'avez entendu comme moi ces jours-ci, pour le secret de la confession.
Oui, pareil, oui.
Pour moi, c'est la même chose.
Bien sûr.
C'est la même chose pour le médecin, c'est la même chose pour l'avocat. Alors, évidemment, le médecin et l'avocat, ils sont soumis à la loi de la République de toute manière.
Oui.
Ils sont pas soumis au droit canon. Mais est-ce que la société veut que, quand telle infraction est amenée à la connaissance, alors parlons Prument. Une infraction de nature sexuelle commise sur un mineur, lorsque ça vient à la connaissance d'un prêtre, d'un médecin, d'un avocat. Quand c'est confié par la personne qui vient se confesser, par le patient du médecin, par le client de l'avocat, est-ce que ces trois professionnels-là, il y en a peut-être d'autres, hein, la liste n'est pas fermée, doivent être contraintes de le révéler aux autorités? Évidemment, dans un premier élan, on peut se dire, ben oui, bien sûr, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils se prennent pour des catégories particulières, particulièrement protégées. Le risque, il n'est pas pour l'avocat, ni pour le prêtre, ni pour le médecin. Hein. Principalement, il est pour la personne qui a commis les faits. Alors d'abord, il faut être sûr. Première chose, il faudra être sûr que ça a bien été commis. Ce qui n'est pas forcément aisé.
Ouais. D'accord. Ouais.
Il faudra que l'avocat, que le médecin sera plus compliqué, ou le prêtre soit sûr que ce qui a été dit est exact. Quid dans ce qui concerne l'information quand elle provient de la victime elle-même? Et que la victime vient se confier à un avocat, et que la victime, par exemple, lui dit qu'elle ne veut pas que cette information soit révélée. Venez une victime de 15-16 ans qui vient voir un avocat qui lui dit mon père pratique sur moi tel et tel attouchement, mais je ne veux surtout pas que vous en parliez. Je venais vous consulter, je veux comprendre comment ça se passe, etc. Bon, la position de l'avocat n'est pas simple. D'une part, quant à la réalité de ce que lui dit, soit la personne qui déclare avoir commis une infraction, soit ce que vient dire une personne qui se plaint de ce dont elle aurait été victime, ce n'est pas facile de connaître la vérité, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui permet de limiter la liste des infractions? Oui. Si la loi me dit demain, maître, quand quelqu'un vient vous dire qu'il a violé, vous devez le révéler aux autorités. Quid pour le meurtre? Quid pour la tentative de meurtre? Et pour telle infraction? Et pour telle infraction? Et pour telle infraction? Et en fait, faut-il qu'il y ait un secret professionnel tout court? S'il y a un secret professionnel pour les vols de poules, c'est plus tellement le problème, quoi. Alors, actuellement, le Parlement français, à ce jour, dans un projet de loi qui est quasiment voté, puisqu'on est à toute fin du processus, en ce qui concerne le secret professionnel des avocats, a commencé en disant « le secret professionnel des avocats subsiste, il est total, absolu, très bien ». On était à l'Assemblée nationale. Bon. Le dossier passe au Sénat. Le Sénat dit « Ah ben non, il ne faut plus qu'il y ait de secret professionnel pour les activités de conseil », c'est-à-dire qu'on distingue le conseil et la défense. Hein. Donc le conseil, c'est en matière fiscale, en matière de corruption, en matière de trafic d'influence ou en matière de blanchiment. Et dans ces matières-là, il n'y aura plus, tel que le texte est écrit à ce jour, il n'y aura plus de secret professionnel de l'avocat. Je vois mal comment demain, on ne va pas avoir la liste qui va s'allonger. Évidemment qu'elle s'allongera. Il y a des choses qui sont plus graves que la corruption ou la matière fiscale.
Donc, parce que, en fait, c'est de la justice avant la justice, ça, parce que le conseil, c'est avant qu'il y ait une action en justice.
C'est avant le contentieux.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Mais on ne peut pas scinder une profession en deux. Très souvent, je conseille des gens avant de faire le procès.
Oui, c'est...
Alors, je ne fais pas de fiscalité.
J'imagine que vous leur conseillez de ne pas faire le procès.
Alors, je ne fais pas de fiscalité, mais corruption, trafic d'influence, dès que je fais du droit pénal, évidemment que je vais avoir des gens qui, peut-être, qui vont venir me voir pour que je les défende, parce qu'ils ont leur reproche une infraction de corruption ou de trafic d'influence. Mais avant de les défendre, je vais les conseiller, je vais étudier leur dossier. Donc, et puis ces infractions-là, finalement, dans un code pénal, je ne trouve pas que ce soit les plus graves, la loi. Il y a des centaines d'infractions beaucoup plus terribles que ça.
Oui.
Alors, finalement, le Sénat et l'Assemblée nationale n'étant pas d'accord entre elles, une commission mixte paritaire s'est réunie, qui a déjà élargi encore plus l'exception en considérant, alors je vous le dis parce que c'est pas très, très bien écrit en plus, ça a été étendu au financement du terrorisme, d'accord, et à l'hypothèse où l'avocat a fait l'objet de manœuvres ou actions afin de permettre de façon non intentionnelle la commission ou la poursuite ou la dissimulation d'une infraction. C'est bon. Oui, on fait ça, ce qu'on veut avec ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Un magistrat peut interpréter ça de 10 manières différentes. Voilà. Bien. Donc ça veut dire ce secret, la question véritablement à se poser quand on voit ça, c'est le prêtre, l'avocat, le médecin, toujours ou pas un secret professionnel ? Est-ce que, et j'invite chacun à se dire, mais tiens, c'est vrai, je divorce, j'ai pas forcément envie que mon avocat il dise à telle personne qui a une connaissance commune, ah bah tiens, tu sais, machin, il divorce et puis il a payé tant de pensions alimentaires. J'ai pas forcément envie que mon médecin puisse dire, ah bah tiens, tu connais un tel, ah bah il y a telle maladie, etc., etc. Il faut quand même que la société, que chaque citoyen éloigne de lui l'idée de dire, bah c'est les avocats, les médecins, ils veulent absolument un secret. Non, c'est pour ceux qui ont recours au médecin ou à l'avocat que c'est important, ou au prêtre. C'est pas pour ces professionnels-là. Et donc là, on a une avancée qui me paraît très, très inquiétante d'une société, si on suit le Sénat, qui voudrait finalement supprimer tous ces secrets, de surcroît avec un ministre de la Justice qui était lui-même avocat, qui avait, promis, et qui avait promis qu'il allait s'occuper de ça.
En fait, cette loi va avoir pour effet de dissuader beaucoup de gens de prendre les conseils d'un avocat ?
Ben bien sûr.
C'est peut-être ça qui est recherché ?
Moi, quand j'ai un client qui a un contentieux avec quelqu'un d'autre qui a lui-même un avocat, ben on discute entre avocats. Est-ce que notre discussion est secrète, obligatoirement, et on commettrait une faute si on en parlait ? Ça nous permet de pouvoir parler librement. Si demain, je suis obligé de dire, bon, ben, monsieur, dans cette affaire où vous demandez de l'argent à telle personne, bon, vous lui demandez 30 000, bon, si je vous donne 20 000, on en reste là, bon. Je ne vais plus me venturer à avoir ce genre de discussion si je sais que demain, ça peut ressortir dans le dossier qu'on soumettra au juge. C'est évidemment des discussions, je parle d'argent, mais ça peut être des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnelles. Ce sont des choses, si vous les écrivez qu'après demain, ça peut être sur la place, ben vous ne les dites pas.
Je reviens au terme de défenseur. Mmh. Au fond, vous êtes le défenseur des fois des attaquants.
Nous sommes l'avocat défend, c'est un défenseur.
Oui. Oui,
c'est l'appréciation footballistique qui vous...
L'idée que je pense qu'il y a derrière cette loi, c'est que les avocats défendent...
Des méchants.
Oui, voilà. Oui,
des personnes peu recommandables.
Voilà.
Ben, j'ai rarement défendu un enfant de cœur, je vous dirais.
Oui, c'est vrai.
Mais il ne faut pas croire que, je veux dire, qu'on est à l'abri, que chacun peut se retrouver chez un avocat comme il peut se retrouver chez un médecin. Voilà. Il faut savoir, que ce soit lui d'ailleurs, ou que ce soit pour ses enfants, pour un proche.
Bon, eh bien, alors, en ce moment, il y a les états généraux de la justice. Mais on va attendre pour en parler, que ça accouche de quelque chose. Quand même, j'ai vu ce titre dans un journal, je ne sais pas si c'est pas Libération ou un truc comme ça, « Les États généreux bon, ». c'est peut-être un petit peu ça le truc. Le coup du tribunal d'appel, la cour d'appel pour les affaires de sécurité sociale, c'est un petit peu ça. Très bien, si on avait été plus généreux avec eux, il n'y aurait pas eu tant de problèmes.
Oui, non, déjà, entreprendre un projet comme cela à 6 mois d'une élection présidentielle, je trouve pas ça très sérieux.
Ouais. Bien, et bien, je vous remercie.
Je vous en prie. Merci, M. Bonnivier.
Et au plaisir de vous revoir, Maître Coudert. Da 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 da